On poursuit ce matin notre série dans l'évangile de Marc et je vous invite tout de suite à la lecture du passage de ce jour, Marc chapitre 4, et on va lire ensemble les 34 premiers versets. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. » Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à deux grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous la présenter? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences de ce monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais nous poser cette question ce matin. Êtes-vous découragé par l'indifférence de beaucoup au message de l'Évangile? Peut-être que vous avez du mal à comprendre pourquoi il y a un tel écart entre le désir de Dieu que tous soient sauvés et le peu de résultats visibles. Peut-être que vous êtes déconcerté par la facilité avec laquelle les gens de notre entourage se tournent si facilement vers toutes sortes de spiritualités, des idéologies, des expériences ésotériques, mais se ferment, s'opposent, s'énervent, restent peut-être totalement indifférents quand on leur parle de Jésus. Peut-être que vous en êtes même arrivé, parfois, à avoir des doutes sur la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu, de l'Évangile. Je vous pose cette question parce que je suis parfois découragé. Et j'espère que ce passage sera un encouragement pour chacun ce matin. On va récapituler brièvement ce qui s'est passé jusque-là dans l'Évangile. Au chapitre 1, Jésus est présenté comme la bonne nouvelle parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et on voit tout de suite quel va être l'enseignement de Jésus. Il dit ceci, chapitre 1, « Le temps est arrivé, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. » Et rapidement, on assiste aux effets de la présence du roi, aux effets de l'autorité de Jésus qui est telle que des personnes le suivent irrésistiblement quand Jésus les appelle. Des vies sont libérées de l'emprise de démons, des malades sont guéris. Jésus révèle même sa capacité à pardonner les péchés. Mais dès le chapitre 2, Jésus commence à être contesté. La tension monte, il y a de l'opposition. L'ambiance commence à devenir électrique. Au chapitre 3, on voit que son enseignement crée une division parmi le peuple. Il y en a certains qui vont même jusqu'à penser qu'il est devenu fou ou qu'il agirait sous l'emprise d'un démon. Et puis d'autres, un tout petit groupe de personnes dont ses disciples le suivent, se tiennent près de lui et l'écoutent. Et la question qu'on peut avoir à ce stade du livre est celle que je vous posais au début. Comment se fait-il que Jésus, ce roi qui était tellement attendu, n'ait pas plus de succès? Pourquoi est-ce que son enseignement divise? Pourquoi cette opposition et autant d'incompréhension? Et c'est ce que Jésus veut nous expliquer dans ce passage qu'on vient de lire. Quelque part, Jésus est en train de nous dire « C'est normal, ne soyez pas découragés par cette opposition. Ne soyez pas découragés. » Et Jésus, dans ce texte, va nous donner trois raisons de ne pas nous décourager face à cette opposition. Première raison, ne soyez pas découragés parce que cette opposition est liée à l'état de nos cœurs. Jésus utilise la parabole du semeur pour mettre en relief cette réalité. Alors je crois qu'il y a des agriculteurs parmi nous ce matin, et je pense que ces passages vont leur parler de manière toute particulière, puisqu'ils sont du métier. Jésus va leur parler par la parabole du semeur essentiellement. Alors, pour rappel, la parabole, c'est une histoire tirée de la vie quotidienne pour illustrer en général une vérité spirituelle. Et cette parabole est la première d'une série de 5 que Jésus utilise pour enseigner sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Elle est la plus longue et la clé, selon Jésus, au verset 13, pour comprendre toutes les autres. Dans cette histoire du semeur, on comprend rapidement que Jésus est ce premier semeur qui sème abondamment sa parole, l'Évangile. Cette même semence tombe sur quatre terrains différents et produit quatre réactions différentes. Ces terrains représentent nos propres cœurs. Il y a le cœur chemin, il y a le cœur sol pierreux, il y a le cœur ronce et le cœur bonne terre. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a que sur le quatrième chemin que la semence grandit et produit son fruit. En fait, trois terrains sur quatre ne produisent pas de résultats satisfaisants. Le pourcentage d'échecs est plutôt élevé, n'est-ce pas ? Et c'est lié, nous dit Jésus, à la disposition de nos cœurs, à l'état de nos cœurs. À chaque fois, il est précisé que les hommes entendent cette parole. Mais le temps du verbe utilisé pour parler des trois premiers terrains souligne une écoute ponctuelle, brève, rapide, superficielle. Cette écoute qui rentre dans une oreille, qui ressort aussitôt par l'autre, sans l'effort ni le désir de comprendre véritablement. Et je pense qu'on on a là une première application pour nous, pour nos vies, en se posant cette question. Quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que je suis cette personne qui entend l'Évangile ou qui a entendu l'Évangile, mais qui n'y porte aucun intérêt ? Parce que le diable me susurre à l'oreille que tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Que tout ça, ça ne tient pas la route. Ou alors, suis-je cette personne qui manifeste ou qui est manifestée rapidement un intérêt pour Jésus ? Mais dès que je réalise qu'il y a un coût à payer pour le suivre, dès que je fais face à de l'opposition, dès que je me rends compte que la vie chrétienne n'est pas si facile que ça, eh bien je laisse tomber. Ou alors, suis-je cette personne pour qui les soucis de la vie vont venir étouffer cette parole ? Mes amis, mon boulot, mes enfants, ma maison, mes loisirs, mon argent, tout ça est bien plus passionnant, plus excitant qu'une vie avec Jésus. Si c'est le cas, ce matin, Jésus t'invite, Jésus nous invite à l'écouter. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a eu un temps de formation sur comment étudier un texte biblique. Et c'est un petit clin d'œil à ce moment hier. On a 10 fois ce verbe « écouter » ou « entendre » qui revient tout au long de ces 34 versets. Mais Jésus nous invite à une autre sorte d'écoute que dans les trois premiers cas. Dans le cas de la bonne terre, le temps que Jésus emploie, le temps du verbe, a changé. Il est au présent, dans l'original, ce qui indique une action continue, qui se prolonge constamment dans le temps. En fait, il y a un commentateur qui a dit « C'est l'écoute de la foi selon Marc. » C'est une écoute continue de la parole de Dieu, avec le désir de la comprendre, avec le désir d'y conformer sa vie. C'est une écoute que Dieu nous donne, que Dieu offre, qui est un cadeau, et par laquelle Dieu va produire un fruit abondant dans nos vies. Il y a ce passage de l'apôtre Paul, ailleurs dans sa lettre aux Romains, qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ne soyez pas découragés, cette opposition est liée à l'état de nos cœurs. Deuxième raison dont nous dit Jésus, ne soyez pas découragés, parce que cette opposition ne date pas d'aujourd'hui. Je vais reprendre les versets 11 et 12 avec vous, parce qu'ils sont surprenants. Il leur dit, donc Jésus, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient, de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. » Surprenant de la part de Jésus. En fait, si on est honnête avec nous-mêmes, on peut se dire « Mais Jésus, il a craqué ou quoi ?» Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus voulait dire ? Dieu veut-il vraiment, au fond, que les gens ne le rencontrent pas, ne se convertissent pas ? Et je fais encore appel à ce qu'on a vu hier, il faut regarder quand il y a un passage compliqué à d'autres passages qui sont clairs, et à commencer par le contexte tout proche du livre de Marc, où on a vu, dès le début de l'évangile de Marc, que ce n'est pas le cas, on a lu tout à l'heure le message de Jésus. Quel est-il ? Un appel à se convertir, à se tourner vers Dieu, à se repentir. Au chapitre 2, on a vu que Jésus montre qu'il est celui qui est capable de pardonner les péchés. Donc, Jésus ne peut pas être en train de vouloir dire ça. Et il y a une forme, comme une forme d'ironie ici. En fait, Jésus est en train de citer un passage du prophète Ésaïe au chapitre 6, les versets 9 à 10. Ce qui nous plonge 800 ans en arrière, alors que Jésus n'était pas encore arrivé sur terre. Dieu avait prévenu à Ésaïe, son prophète, que son message, sa prédication, produirait l'endurcissement du cœur de son peuple. Et il affirme, « Tu vas aller leur parler, mais ils auront beau voir, ils ne percevront rien. Ils auront beau écouter, ils ne comprendront rien. » Parce que cela est lié à la dureté de notre cœur, au péché qu'il y a dans nos vies. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Au chapitre 3, Jésus fait des miracles. Le peuple voit ces miracles, mais ne veut pas voir qui est Jésus réellement. Et ici, au chapitre 4, Jésus enseigne par ses paraboles pour que le peuple écoute, mais il sait que beaucoup n'écouteront pas vraiment. Et verset 33, la fin de ce passage, alors que ces paraboles devraient être accessibles à tous, compréhensibles par tous, elles restent incompréhensibles pour ceux qui refusent de voir en Jésus le roi venu établir son royaume. En fait, les paraboles que Jésus raconte agissent comme un révélateur des cœurs. Elles distinguent d'un côté les personnes du dehors, on les a vues au chapitre 3, les pharisiens, les spécialistes de la loi, la famille de Jésus, des personnes qui s'approchent de Jésus pour écouter son enseignement, pour recevoir les explications, versets 10, 11 et 34, parmi lesquels les disciples. Ces deux groupes ne sont pas figés, parce qu'on sait que plus tard, la famille de Jésus va reconnaître qui est Jésus. On voit que les disciples qui suivent Jésus vont aussi, ne comprennent pas tout, mais vont par la suite comprendre. Et puis on sait qu'il y a un disciple qui a suivi Jésus tout au long de sa vie et qui pourtant va se révéler comme étant quelqu'un qui fait partie du dehors. Ce matin, il est urgent d'entendre l'appel de Jésus. Pourquoi ? Parce que le verset 25 affirme qu'un jour, Dieu prêtera attention à ceux qui font partie de son royaume, qui auront écouté et accepté ce message de l'Évangile. Ceux-là, nous dit Jésus, recevront bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais pour ceux qui se trouvent dehors à ce moment-là, ils perdront tout, y compris leur propre vie. Ne soyez pas découragés. Cette opposition est liée à l'état de nos cœurs. Ne soyez pas découragés, cette opposition ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, ne soyez pas découragés, parce que cette opposition n'arrêtera pas la croissance du royaume de Dieu. Est-ce que vous avez noté le gros contraste qui est présent tout au long de ce passage? Je ne suis pas agriculteur. J'ai eu l'occasion de prendre dans ma main, malgré tout, à quelques reprises, un grain de blé, un grain de moutarde. Et vous le savez, c'est tellement petit. J'ai regardé par curiosité sur Internet, un grain de blé mesure de 5 à 7 mm. Et la graine de moutarde, entre 1 et 2 mm. Toujours par curiosité, j'ai regardé jusqu'à quelle hauteur pouvait pousser un épi de blé. Ça pousse, en moyenne, de 60 jusqu'à 60 cm de haut, jusqu'à même 1,20 m. Et parfois même 1,50 m. La hauteur d'une plante de moutarde va de jusqu'à 60 à 90 cm de haut. Et il est là, l'encouragement, dans ce passage. Le message de l'Évangile, nous dit Jésus, et le royaume de Dieu sont comme ce petit grain de blé et cette petite graine de moutarde. Elles ne payent absolument pas de mine quand on les tient dans la main. Et pourtant, elles contiennent en elles-mêmes une puissance telle que lorsque ce message de l'Évangile tombe dans certains cœurs, eh bien les personnes voient leur vie transformée, comme cet épi. Elle passe de la mort spirituelle à la vie éternelle avec Dieu. Elle grandit dans cette connaissance de Dieu et porte, par la grâce de Dieu, un fruit abondant dans leur vie. Alors soyons encouragés ce matin. Soyons encouragés et ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Ce message de l'Évangile, nous dit Paul, toujours dans sa lettre aux Romains, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soyons encouragés à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, seul ou à deux, en petit ou en grand groupe. Exposons-nous régulièrement à cette parole. Exposons aussi nos enfants régulièrement à cette parole. Soyons encouragés, le royaume de Dieu ne paye peut-être pas de mine. Il n'est pas encore visible, mais pourtant, il grandit inévitablement. En fait, dans le texte qu'on a lu, dans l'original, c'est le mot qui va donner automatique. Il grandit automatiquement. La parabole de la semence, versets 26 à 29, nous rappelle que nous pouvons dormir et nous lever avec la confiance que Dieu a envahi notre monde troublé, non pas par une prise de pouvoir politique ou en faisant la guerre, mais par une semence à peine visible qui grandira et produira un jour une moisson fructueuse. Et versets 30 à 32, telle la plante de moutarde, ce royaume est en train de grandir aussi de manière inévitable, en taille. Les oiseaux étaient souvent une image utilisée par les prophètes de l'Ancien Testament pour parler de personnes d'origine non-juive, qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, qui correspondaient donc au peuple des nations. Et c'est la réalité. Plus le temps passe, et plus des personnes de toutes les nations trouvent refuge sous le règne et sous l'autorité de Jésus-Christ, le grand roi. Alors, soyons encouragés, persévérons à partager l'Évangile avec les personnes de notre entourage. Persévérons à parler de Jésus autour de nous et laissons la puissance de cet évangile, laissons la puissance de Dieu agir dans les cœurs et produire son effet. Je vais prier. Seigneur, j'ai commencé ce partage en évoquant combien parfois je suis le premier à être découragé devant le peu de résultats que Jésus ou son message peuvent produire dans la vie des personnes que je côtoie. Seigneur, je veux te demander pardon pour l'incrédulité, pour la dureté de mon propre cœur. Et Seigneur, merci pour cet encouragement que tu me donnes, que tu nous donnes encore ce matin au travers de ce passage. De nous rappeler que oui, ce message de l'Évangile, cette parole, peut-être ne paye pas de mine. Et pourtant, il demeure et il est et il restera ce moyen par lequel tu veux te faire connaître à toute personne dans ce monde. Seigneur, cela nous parle de notre propre cheminement. Nous avons peut-être eu le privilège de te rencontrer, de découvrir qui tu es, ce roi, ce sauveur, ce Seigneur, tôt dans notre vie. Mais peut-être pour beaucoup d'entre nous, cela s'est fait sur le tard, et on voit combien on a besoin de cheminer, combien on a besoin de se laisser toucher par toi, et combien cela prend parfois du temps dans nos vies. Alors Seigneur, on veut te prier encore pour toutes celles et ceux qui sont encore peut-être à l'extérieur de ton royaume ce matin. Et on te prie que tu fasses ton œuvre dans les cœurs, dans les vies. Que tu nous encourages tous ce matin, Seigneur, à persévérer dans ces temps de lecture de ta parole, d'étude de ta parole, comme on a vu hier, pour toujours plus apprendre à te connaître, pour toujours plus apprendre à te faire confiance, à nous attendre à toi. Et Seigneur, je te prie que tu produises ce fruit que tu as promis que tu donnerais quand cette parole tombe dans la bonne terre, que nos vies soient remplies de ce fruit et que tout cela, Seigneur, puisse l'être pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen.